il faut savoir que ce sont les enfants les premières victimes des violences sexuelles, avant les femmes. Je suis désolée de le dire comme ça, il y a un côté comparatif qu'il faut pas prendre au pied de la lettre comme ça, mais les premières victimes des violences sexuelles sont des mineurs, si on reprend le langage.
La majorité
sont des mineurs. Alors, suivant les enquêtes, le chiffre en tant que tel n'a pas grande importance parce que ça dépend de quelle est votre source d'enquête. Mais les premières victimes des violences sexuelles sont des mineurs. Enfants, adolescents, après, faudrait nuancer, mais en langage pénal, on dit majeur ou mineur, en tout cas des moins de 18 ans.
Très bien.
Dans un second temps, ce sont des femmes adultes. Plus précisément, dans l'enquête que nous avons faite, au moins une victime sur deux était un mineur. Je pense qu'on était presque à 60%. Il faudrait quand même que je le vérifie là et il faudrait faire attention à ça. Et à ma connaissance, dans mon souvenir, 30% avaient moins de 10 ans.
Moins de 10 ans.
D'accord. Donc, ce sont effectivement les enfants et les adolescents qui sont les premières victimes des violences sexuelles. Je pense que ça a d'ailleurs toujours été le cas. On estime, en gros, suivant les enquêtes, les études, etc., pour reprendre les viols, que seuls 10% des viols seraient portés à la connaissance de la justice. C'est-à-dire que si vous comparez le nombre de personnes qui dit avoir été violée dans les enquêtes de victimation, avec le nombre d'affaires pour viol qui sont portées à la connaissance de la justice, vous avez en gros un rapport de 1 à 10. Ça veut dire que la justice méconnaît à peu près 90% des affaires. Et je trouve que c'est extrêmement paradoxal, parce que comment faudrait-il en parler plus pour que ça arrive à la connaissance de la justice? Et du coup, ça pose la question aussi de la pénalisation de ces violences. Au fond, est-ce que c'est la meilleure voie pour les victimes de voir leur affaire portée en justice?
Justement, qu'est-ce que c'est le viol en France?
Il existe une définition pénale du viol qui correspond à un article du Code pénal. Et la définition dit que toute pénétration à caractère sexuel commise sur la personne d'autrui par contrainte, menace, surprise ou violence est un viol. Voilà. Ça, c'est la loi du 23 décembre 1980.
Donc pas forcément une pénétration avec le sexe d'un homme.
Pas du tout, c'est beaucoup plus large que ça.
Voilà.
C'est toute pénétration à caractère sexuel. Alors, toute pénétration, ça veut dire que c'est pas uniquement une pénétration pénienne, effectivement, ça peut être une pénétration digitale, ça peut être une pénétration dans les différents orifices du corps aussi, ça peut être une pénétration par objet, mais ça doit quand même être à caractère sexuel. Alors après, il peut y avoir interprétation, jurisprudence, etc., etc., et commis sur la personne d'autrui. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une femme, ça peut aussi être un homme. Parce que pendant longtemps, effectivement, les lois sur les viols n'imaginaient le viol que commis par un homme sur une femme. La loi de 1980 a permis d'élargir le spectre, si je puis dire, à la fois des faits et des protagonistes, aussi bien, en l'occurrence, des victimes. Ici.
Est-ce que le viol a toujours pour motivation le désir sexuel?
Je ne pense pas. Nous avons tenté dans cette recherche d'établir une typologie des viols. C'est-à-dire que nous nous sommes posé la question qu'on se pose toujours quand on travaille sur ce sujet, qui est pourquoi? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête, entre guillemets, des agresseurs sexuels? Alors, une typologie, il y a plusieurs façons d'en établir. Hein. C'est pas un modèle gravé dans le marbre. Nous, nous sommes partis sur une typologie de ce type. Et j'ai été surprise de constater que, à la lecture des différents éléments qui m'a été donné de lire, ce serait presque l'inverse. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait assez peu de viols à dominante sexuelle. Tous les viols ont une composante sexuelle, bien évidemment, parce que il faut quand même qu'il y ait une pénétration à caractère sexuel. Mais les motivations, les intentions des agresseurs, de mon point de vue, peuvent être largement plus diversifiées que le seul désir sexuel. Ça existe, bien évidemment, il y en a, mais je ne suis pas sûre que ce soit la majorité.
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme motivation pour le viol? Rapidement, quelle typologie?
Oui, on a trouvé des viols dans lesquels très clairement les enjeux de pouvoir étaient majeurs. était dominant. Tous les viols sont des rapports de force. D'abord, tous les viols sont des rapports de force.
D'accord.
Il y a plusieurs types de rapports de force. On a trouvé des viols dans lesquels c'était la violence qui dominait. C'est-à-dire que la violence sexuelle n'était jamais qu'un élément, pardonnez-moi pour le « n'était jamais que », mais au fond, était un élément parmi d'autres éléments de violence. On a par exemple trouvé des affaires de viols conjugaux dans des contextes où les victimes, des femmes, dans la totalité des cas, étaient des femmes très violentées par leurs conjoints, mari, copain, ex-conjoint, concubin, amant, hein, les sphères de conjugalité au sens très large du terme.
Donc le viol venait en plus.
Le viol venait en plus.
D'une violence quotidienne.
D'une violence quotidienne ou bien d'une sorte de débordement de violence, une sorte de crise violente à la faveur d'une dispute extrêmement orageuse, à la faveur d'une suspicion de jalousie, de tromperie, etc., etc., dans lesquelles le viol est un élément parmi d'autres. Et ce qui est très intéressant et même très intriguant, ce que parfois les victimes le disent elles-mêmes. C'est-à-dire, au fond, elles disent c'est pas tellement le viol qui, dans ce cadre-là, j'entends bien, qui a procuré la souffrance la plus importante. Voilà, on a comme ça des affaires dans lesquelles on a le sentiment que le viol est mis au service, d'une certaine façon, d'une sorte de violence tous azimuts, d'une violence généralisée. Ce sont souvent les affaires les plus sordides, les plus dures, hein, que l'on a pu lire ou dont on a pu avoir connaissance. Il y a ensuite des viols que j'ai appelés, moi, de la revanche sociale. J'ai été frappée que dans un certain nombre de dossiers, et en particulier dans les affaires où les auteurs sont des inconnus, il faut savoir, j'ouvre une parenthèse, que la majorité des viols sont commis par des personnes qui connaissent les victimes, ou sur des victimes qui connaissent les auteurs.
Alors quand vous dites la majorité,
La majorité c'est presque 8 sur 10.
C'est ça, c'est presque la totalité.
C'est presque la totalité, oui, on pourrait dire à l'inverse, c'est-à-dire que toutes les enquêtes montrent que les violences sexuelles, de façon générale, sont des violences de proximité. Et que le viol est un crime du proche. C'est-à-dire que, à contrario, les abus sexuels, violences sexuelles, agressions sexuelles commis par des inconnus, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles les victimes n'ont absolument aucun lien affectif, familial, de connaissance, sont rares. 8 sur 10, 7 sur 10, 9 sur 10, ça dépend des enquêtes, mais au fond, c'est vraiment la minorité des affaires.
Alors, pour continuer ce que vous disiez.
Alors, pour continuer sur ce que je disais, sur le viol de la revanche sociale, j'ai été frappée de constater que, notamment dans les affaires où il y avait des auteurs qu'on va appeler inconnus, comme ça, des victimes, eh bien, les victimes et les auteurs étaient en tout point opposés, notamment sur le plan social. Pour donner une image, entre guillemets, les victimes étaient très souvent des femmes, assez jeunes, par exemple à Paris, hein, c'est notamment dans des aires urbaines, qui venaient d'un milieu social plutôt aisé et qui elles-mêmes avaient une situation sociale plutôt confortable, voire très confortable. Et les agresseurs, au contraire, étaient souvent ce qu'on appellerait, pardonnez-moi pour le langage un peu familier, des perdants. Des perdants sur à peu près tous les plans, des losers, comme diraient les jeunes. C'est-à-dire des personnes d'extraction sociale plutôt basse ou moyenne, des personnes qui n'ont pas réussi, en tout cas au moment où les faits étaient commis, à avoir une position sociale, une existence sociale, et pour lesquelles on peut se demander si le viol n'a pas été un moyen de pouvoir prendre une sorte de revanche sociale, c'est-à-dire d'infliger un rapport de force à quelqu'un qu'ils ont mis dans la position de faiblesse qu'ils vivent quotidiennement. Voilà. C'est pour ça que je l'appelle de la revanche sociale, c'est-à-dire que la composante sexuelle est bien évidemment présente, mais on a le sentiment que ces personnes-là vont faire payer d'une certaine façon à d'autres qu'eux-mêmes, au fond, le ressentiment qu'ils vivent, qu'ils éprouvent, parce que ils n'y arrivent pas, quoi, tout simplement. Ils n'arrivent pas à avoir une existence. Et là, je me souviens d'une situation, enfin d'un cas, d'un dossier où, d'ailleurs, le jeune homme l'expliquait très bien. Il était livreur de pizza. Et puis livreur de pizza, c'est pas un plein temps et on gagne pas beaucoup d'argent hein, avec cette situation. D'origine, je crois qu'il était antillais, hein, quelque chose comme ça, donc noir de peau, et qui expliquait, il l'expliquait très bien lui-même d'ailleurs, qu'il avait passé une semaine à livrer. Alors, en plus, il se trouve qu'il livrait plutôt dans les beaux quartiers parisiens, si je puis dire. Hein. Et il expliquait très bien que c'était pas simple quoi d'aller livrer des pizzas dans des beaux immeubles, dans des beaux appartements, dans des quartiers, que il n'était pas satisfait de son travail, et à la fin d'une journée où il s'était fait rembarrer deux, trois fois, etc., une jeune femme lui ouvre, elle lui fait une réflexion, mais quasiment anodine d'une certaine façon sur le retard, je crois, tout simplement qu'il a. Et là, il explique très bien que il pète les plombs, il s'en prend à elle, il la violente et il la viole, et il a cette phrase en disant, mais c'est comme si je m'étais vengée de tout ce que j'avais supporté pendant cette journée ou pendant une semaine. Et des affaires comme ça, il y en a plusieurs. En tout cas, il est frappant de constater qu'il y a plusieurs situations où les agresseurs sont vraiment, en gros, situés aux échelons les plus bas de l'échelle sociale. Et comme par hasard, entre guillemets, vont aller s'en prendre à des femmes qui sont pas au top de l'échelle sociale, mais qui globalement ont une forte aisance sociale. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de l'ordre de la revanche. Le viol étant au fond un instrument qui est mis au service d'une revanche sociale.
C'est ça, on a l'impression que le viol est un outil,
Tout à
et c'est
fait.
une arme,
Et c'est une arme, tout à fait.
qui est d'ailleurs largement utilisée dans les guerres.
Exactement, exactement. Le viol est une arme, un instrument, un outil pour imposer au fond un rapport de force à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi impose-t-on un rapport de force à quelqu'un d'autre? C'est pas uniquement par manque sexuel, par insatisfaction sexuelle. J'irais même jusqu'à penser que dans ces cas-là, la sexualité ou le désir sexuel est presque annexe, est presque accessoire. Derrière un article du code pénal, derrière un unique mot, ce masque se cache des faits qui n'ont quasiment rien à voir les uns avec les autres. Entre un viol unique commis sur une femme, par exemple, qui rentre chez elle, la nuit et qui va se faire agresser, par un homme dans le hall d'immeuble avec un couteau sur la gorge. C'est un viol, par exemple, l'homme va l'obliger à lui pratiquer une fellation. Entre ça et une petite fille violée plusieurs années durant par son père, et puis après elle la petite sœur, et puis après elle le petit frère, c'est pas pareil. C'est le même mot, c'est le même article du code pénal, c'est pas pareil. Ou bien une affaire de jeu sexuel, même s'il faut être un peu prudent avec les termes, qui se termine mal parce que entre ados, par exemple, mais on a plus le sentiment que c'était un jeu, quelque chose de la découverte sexuelle, quelque chose de l'initiation, et puis peut-être une des jeunes filles ou un des jeunes garçons, du reste, trouve qu'on va trop loin et se sent moins à l'aise. Ça peut se terminer en viol, par exemple, s'il y a une pénétration digitale. C'est le même mot, mais en réalité, c'est pas les mêmes réalités, oui, psychologiques, affectives, sociologiques. Et si je le dis, c'est pas uniquement pour le plaisir de l'analyse intellectuelle, c'est que du coup, c'est pas les mêmes campagnes d'information, c'est pas les mêmes dispositifs de prévention, c'est pas les mêmes processus d'accompagnement et de traitement, c'est pas les mêmes discours, c'est pas les mêmes mots que l'on doit mettre sur ces violences, entre guillemets. Ça, c'est une première chose. Une autre difficulté à laquelle on fait face, si on veut que le voile du silence se lève, hein, pour répondre à votre question. Les violences sexuelles sont des violences du proche. Comment alerter sur le fait que les prédateurs potentiels, au fond, si l'on veut parler en ces termes-là, c'est pas l'inconnu, c'est pas l'étranger, c'est pas le lointain, c'est le proche. Pour une femme adulte, la probabilité la plus forte qu'elle aurait d'être victime d'un viol, c'est par son conjoint. Ou c'est par l'acteur principal de sa sphère de conjugalité, disons, son conjoint, son mari, son époux, son ex-conjoint, son amant, son petit copain, son flirt. Comment aller dire aux femmes, méfiez-vous de votre conjoint. Les enfants, ce sont d'abord les pères, les beaux-pères, les grands-pères, les oncles. Comment dire à des enfants, méfiez-vous de vos proches? Comment on dit le danger du proche? Et ça, c'est On a essayé, hein, je pense qu'on s'est amélioré sur les campagnes d'information, sur les campagnes. Il y a encore quelques années, c'était la campagne d'information où ça se passait la nuit, le violeur était avait une mine patibulaire et il pleuvait au mois de novembre. Ben non, le violeur, il a pas une mine patibulaire, il pleut pas et ça se passe dans une chambre d'une villa. Comment on le dit? Comment on met les mots là-dessus? Et troisièmement, je pense qu'il faut avancer sur la question de la protection des victimes. Je pense qu'on a touché nos limites sur la pénalisation. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Remettre la peine de mort? Faire une peine de viol de 20 ans, de 25 ans? Plus on ira loin. Moi, je suis en désaccord, par exemple, avec certaines voix qui pensent qu'il faudrait allonger encore les délais de prescription. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas, parce que c'est nous couper des moyens que la justice a de travailler. Donc c'est pas une bonne idée. Je pense on a dit, on sait que c'est un crime, on sait que c'est grave. La justice en a tenu compte quand même aujourd'hui. Sauf qu'elle peut pas aller plus loin. Donc si la justice ne peut pas aller plus loin, donnons-nous des armes et des moyens pour activer les autres moyens de travailler en coopération avec les victimes. Pourquoi iraient-elles porter leur affaire en justice dans les conditions actuelles du fonctionnement judiciaire, que je ne critique pas du reste, hein, mais qui est-ce qu'il est? Donc, si l'on veut effectivement que les victimes lèvent davantage le voile du silence, eh ben, allons vers elles, tendons-leur la main, demandons-leur ce qu'elles veulent, accompagnons-les, donnons-nous des moyens pour répondre à leurs demandes, ce qui n'est pas fait du tout, du tout, du tout. Je le répète, c'est pour moi une démagogie. Je pense que dans la parole, dans l'affichage, notamment l'affichage politique, on a placé les victimes au centre de nos préoccupations. Ça, on a vite fait de dire qu'on va aller se porter au secours des victimes. Dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, c'est pas vrai. Et qu'on a encore beaucoup à gagner de ce point de vue pour prendre au sérieux la place des victimes, sans tomber, bien évidemment, dans le travers qui sera mon quatrième point d'une certaine façon, c'est que tout jeu sexuel n'est pas un viol, toute initiation sexuelle n'est pas un viol. Mon quatrième point, c'est attention aux paniques là-dessus. Attention aux paniques. On n'en est pas loin parfois. On n'en est pas loin. Je pense qu'il y a dans les dossiers que j'ai pu étudier, pas aux assises, hein, mais en justice, les magistrats eux-mêmes disent d'ailleurs, il n'y a pas d'intention de nuire là. On n'est pas dans l'agression, on est dans le jeu, on est dans le touche-pipi, entre guillemets, on le dit plus trop aujourd'hui, ça. On est dans, surtout, mais surtout entre des jeunes, hein, on est dans la maladresse. Attention à pas tomber dans l'excès inverse. Voilà, je pense que c'est important. Tout n'est pas violence, quand même, quand même, quand même. Même si des jeunes s'y prennent mal, même si les relations sexuelles entre jeunes peuvent parfois être un peu rudes, on n'est pas au pays des bisounours, quoi, hein, je veux dire, et les initiations sexuelles et les premières relations sexuelles, et le désir sexuel lui-même, il n'est pas tout blanc ou tout noir, je veux dire, c'est pas simple, je veux ou je veux pas, c'est compliqué le désir, enfin, pour le coup, quoi. Et c'est pas parce que on ne sait pas bien formuler le désir, on hésite à formuler le désir, on n'a pas les mots pour formuler le désir, qu'on tombe dans la violence. Je pense qu'il y aurait des modulations à apporter aussi, qui nous aideraient à penser les violences.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.